La justice est un principe philosophique, juridique et moral fondamental, en vertu duquel les actions humaines doivent être sanctionnées ou récompensées en fonction de leur mérite au regard du droit, de la morale, de la vertu ou autres sources normatives de comportement. L'ambition est toujours l'ennemi de la justice. Proverbe latin, 1757.
Le procès a commencé par l'appel des jurés, donc avec le boulier. La greffière a appelé un par un les jurés.
Cet après-midi, il y a eu plusieurs témoignages. Il y a eu ceux de deux officiers qui étaient en partie contradictoires et celui de la victime, donc la femme de l'accusé.
On a pu voir les témoignages des deux officiers de police qui n'étaient pas totalement cohérents. Donc on a pu voir que sur certains points, ils se contradisaient. Notamment sur la scène où l'officier de police numéro 1 rentre dans la maison et affirme que la table et la chaise et la télé sont par terre, alors que le deuxième officier de police affirme que les chaises et les tables sont en ordre, et la télé aussi, mais la télé semble abîmée sur un coin.
Ensuite, il y a eu le témoignage de l'ancienne femme de l'accusé.
À la fin, le président a réinterrogé l'accusé en fonction des réponses qui leur avaient été accordées avec la victime pour en savoir un peu plus et lui demander s'il l'avait vraiment étranglé ou pas. Et donc, celui-ci a affirmé qu'il ne l'avait pas vraiment étranglé.
Et qu'il l'avait attrapé juste par le col.
Elle a raconté qu'elle avait été étranglée déjà.
Avec les mains, donc il l'avait prise par le cou et qu'il l'avait étranglée.
Elle a vraiment fait le geste avec les mains. Sinon, elle a raconté son passé avec lui, sa vie de couple avant qu'il se lance dans leur projet, ce qu'elle faisait elle aussi avant qu'elle se lance dans leur projet.
Et les débuts, quand il a commencé à être violent
Elle se traduit par la présence de l'alcool. Donc Et il dit que lorsqu'il était violent, il avait pas non plus un fort taux d'alcoolémie dans le sang. Donc ça pardonne pas tout non plus, le fait qu'il ait de l'alcool dans le sang, mais ça accentue ses actes. Sa femme, donc la victime, dit aussi qu'il était violent verbalement.
Qu'il l'insultait.
Et les enfants aussi. Oui. Les mains de la victime, quand elle dit que l'accusé l'a attrapé, enfin a essayé de l'étrangler quoi avec les mains, et elle a fait vraiment le geste comme ça.
Oui. Moi c'est quand c'était sa femme qui parlait, l'accusé il faisait des têtes surpris un peu comme s'il pensait pas la même chose et qu'il était étonné ou qu'elle disait n'importe quoi, qu'elle mentait. Et on avait un peu cette impression-là sur la tête de l'accusé.
Moi, c'était les mots de sa mère quand elle était super émue et elle disait qu'il fallait tourner la page.
Moi, c'est comme Roman. C'est quand la mère, elle a parlé. Elle n'avait pas vraiment de choses à dire. C'était pas vraiment préparé. C'était spontané, en fait. Elle disait vraiment ce qu'elle ressentait et qu'elle n'avait rien à reprocher à son fils, qu'elle l'aimait et qu'elle le protégerait de toute façon.
Je crois que c'était super émouvant. Et après, c'est vrai que quelquefois j'ai l'impression qu'elle n'était pas totalement honnête. Aussi, je trouvais ça un peu perturbant le fait qu'il voit ce que ressent sa mère et sa femme, et il entend tout, des choses qu'il n'était peut-être pas au courant.
Là, j'ai pas compris sa réaction, il avait aucune réaction. Parce qu'il a appris en même temps que nous qu'il avait été reconnu à 3 ans. Il l'a appris en même temps que nous et ça...
Sa mère ne lui avait jamais dit.
Il n'a pas eu une grosse réaction, c'était pas très flagrant.
Oui.
t'essayes de te dire dans ta tête que ça va changer, ça peut changer si on fait des efforts, s'il fait des efforts. Surtout qu'ils ont essayé de suivre des psys. Donc ils étaient dans l'optique de changer. Ouais. Et elle espérait ça en fait.
Elle a fait une cure, il a fait une cure aussi. Et elle a dit qu'à son retour, elle espérait qu'il soit plus attentionné et que le dialogue serait plus facile.
Pour moi, c'est pas une tentative de meurtre, ce qu'il a fait. Enfin, je trouve ça dur de juger une tentative de meurtre, puisque on peut pas savoir s'il l'aurait vraiment tué ou pas, puisque il est pas allé au bout de son acte, donc on peut pas savoir ça. Et je sais pas. Enfin, pour moi, c'est plutôt une violence conjugale que tentative de meurtre, puisque il était déjà sous le coup, sous l'effet de la drogue, de l'alcool, pardon.
Mais c'était bas.
Et
il était pas ivre,
mais il avait quand même de l'alcool dans le sang. Et il était aussi énervé, et puis sa situation financière aussi, qui fait que ça joue sur son humeur, ça accentue tout en fait. Ça.
Pour moi, si. Parce que il a eu l'occasion plusieurs fois quand même de la tuer, et s'il a fait toutes les violences, tout ça, et sa femme dit qu'elle a vraiment vu dans son regard que c'était pas comme d'habitude, donc je pense qu'il avait vraiment l'intention de la tuer, parce que sinon il aurait pu le faire avant, et pendant les violences, tout ça qu'il faisait avant, et là il était vraiment énervé au point de la tuer, quoi, s'il y avait quelque chose dans son regard, tout ça. Donc pour moi c'est une tentative de meurtre.
Bah, c'est vrai qu'il n'est pas allé au bout de son acte, et il a dit qu'il serait pas ce qui serait passé si les policiers n'étaient pas intervenus. Mais après, il a quand même reconnu que si les policiers le relâchaient, il aurait essayé de la tuer. Donc pour moi, c'est quand même une tentative de meurtre.
Oui, parce qu'on ne dit pas ça à la légère comme ça, surtout qu'il n'était pas ivre. Donc,
oui, en plus.
Il y avait une part de vérité dans le fond, quand même.
Moi, je pense plutôt que ça va être dur pour les jurés, puisque ça va être plus émotionnel. Il y aura plus d'émotions, je pense, puisque le fait d'avoir un enfant de 14-15 ans en face de toi qui raconte cette scène-là, même des enfants de 19 ans, enfin, ça reste quand même émouvant. Ouais. Enfin, c'est triste.
Oui, de voir son père comme ça, l'accuser, c'est compliqué.
Je pense aussi que ça va être très émouvant. Surtout ils n'ont pas pu, je pense, parler avant de ça avec leurs parents, vu qu'ils étaient tout le temps en train de s'énerver. Ils n'ont pas pu du tout s'exprimer. Du coup, de tout recracher ça d'un coup, ça va être super émouvant.
C'est sûr qu'on ne peut pas trop se mettre à la place, parce qu'on ne peut pas trop comprendre ce que c'est. Comme ça, de parler de sa vie privée devant tout le monde. Mais franchement, je sais pas comment ils font.
Jury numéro 1.
Rochelle Adam, seconde 2.
Jury numéro 2. Louessard Maya, seconde 2. Jury numéro 3.
Galant Jules, seconde 2.
Jury numéro 4.
Romère Crête Martin, seconde 2.
Jury numéro 5.
Chemin Colline, seconde 4.
Jury numéro 7.
Mazuret, Maëlys, seconde 4.
Jury numéro 6.
Pontruchet, Eline, seconde 4.
Jury numéro 8.
Adam, Clara, seconde 4.
Jury numéro 9.
Angers, Emma, seconde 4.
Jury numéro 10.
Lenoir, Nani, seconde 4.
Jury numéro 11.
Duterte, Rachel, seconde 4.
Jury numéro 12.
Bonaventure, Emma, seconde 4.
Nous remercions Maître Floch, Maître Cantero et Maître Bougie pour leurs réponses à nos questions, ainsi que nos professeurs, Madame Roland et Monsieur Schindler Bondiguel, tout comme le lycée Chateaubriand qui nous ont accompagnés tout au long de notre aventure Litzo. Merci au groupe Stern pour leur musique. Merci à Romain de SILAB pour son aide. Et merci à toutes les personnes que nous avons pu interviewer sans les connaître, celles qui nous ont aidées et donné du temps pour nous. Merci à tous. La justice est un principe philosophique, juridique et moral fondamental, en vertu duquel les actions humaines doivent être sanctionnées ou récompensées en fonction de leur mérite au regard du droit, de la morale, de la vertu ou autres sources normatives de comportement. L'ambition est toujours l'ennemi de la justice. Proverbe latin, 1757. Au tout début, on a vu le médecin légiste, donc c'est un expert, qui nous a parlé de son analyse sur le corps de l'accusé et de la victime. Donc on a vu des photos de marques qui ressemblaient à des marques de doigts sur le cou de la victime.
Il y avait les enfants de l'accusé et de la victime. Il y a eu les quatre enfants qui sont passés. Et donc, ils sont passés dans l'ordre de leur âge, j'ai remarqué. Et donc, ils ont tous rapporté à peu près les mêmes faits. Il y a quelques incohérences dans les témoignages, avec une histoire de passage au sol et de passage debout. Donc, ça reste un peu flou et du coup, ça retransmet bien l'idée d'action qui est très rapide et de ce moment un petit peu flou, voilà.
Et en fait, dans les témoignages des enfants, du coup, il n'y a que le dernier, donc le fils de 21 ans, qui a dit ne pas avoir vu d'étranglement. Et sinon, ils étaient un peu tous du côté de la mère, finalement. Il n'y en avait que le tout premier fils de 15 ans qui était plus neutre. Et du coup, l'expert qu'on a vu, c'était un psychiatre expert. Il a parlé surtout de l'accusé, en fait, parce qu'il a été suivi pour dépression et suicide, etc. Et en fait, du coup, il y a eu une biographie, et après, il a expliqué sa cure contre l'alcool, ses interventions à l'hôpital, etc. Et il s'est un peu embrouillé avec l'avocate.
Lorsque le premier fils est passé à la barre, celui qui a 15 ans, je trouvais ça un peu éprouvant pour le fils de passer à la barre devant un président, devant toute une cour d'assises comme ça à 15 ans. Donc ça m'a un peu ému, personnellement. Je sais pas si vous...
Si, ça m'a ému, mais moi, ce qui m'a un peu, pas choqué, mais c'est quand on a dit, en fait, le père de l'accusé n'est peut-être pas vraiment son père. Genre, ça n'avait pas grand-chose à faire dans le procès, mais ça m'a un peu dérouté qu'ils disent ça comme ça, d'une façon aussi brutale, comme si c'était « il fait beau aujourd'hui », quoi.
Moi, un moment qui m'a particulièrement touchée, c'est le moment où Léon, qui a 15 ans, donc le premier fils qui est passé à la barre, a prononcé cette phrase « j'ai eu peur que papa tue maman ». Et donc, je trouvais que c'était... des propos sortant de la bouche d'un enfant de 15 ans devant tant de personnes et devant notamment son père et sa mère. Je trouvais ça très, très poignant. Et puis surtout la réaction du père de Léon, donc l'accusé, qui semblait très triste. C'était vraiment touchant de voir toute cette scène entre l'enfant et le père et la cour.
Je pense que c'est usuel, mais le fait qu'il parle comme si l'accusé n'était pas là, qu'il dise tout le temps « votre père » et pas... qu'il le... pas déshumanise, mais qu'il le font vraiment comme s'il était absent de la chose. Il parle comme si c'était une personne qui n'était pas présente. Et ça, c'est, en même temps, ça fait un certain détachement qui est un peu étrange. On a bien compris que l'accusé avait un passé difficile, avait
eu des problèmes avec la colle et tout ça, mais même si on ne sait pas encore s'il a vraiment étranglé sa femme ou pas, ce qu'il a fait auparavant, et même si c'est pas forcément toujours cohérent, on se rend bien compte qu'il était violent avec elle, et je pense pas que ce soit quelque chose qui devrait être pardonné lui à son passé.
Moi, déjà, j'ai trouvé ça intéressant d'entrer dans la tête de chaque témoin. Et je trouvais ça intéressant parce que les atmosphères dans la cour d'assises changent beaucoup en fonction des témoins. Et puis concernant l'affaire, j'ai pas vraiment d'avis. Je pense que vraiment tous les éléments de l'affaire en fait concordent avec l'agression qui s'est produite. Et je pense que quand même la sentence qui sera prononcée, elle sera certainement atténuée par le passé difficile et psychologique de l'accusé. Moi, je pense qu'il y aurait l'emprisonnement. Je pense les violences conjugales, oui, c'est sûr. Tentative de meurtre, ça reste à voir. Mais je pense que là, c'est parti pour une tentative de meurtre.
Je pense qu'il va quand même avoir un peu d'emprisonnement. Mais évidemment, il y a l'effet qu'il soit alcoolique et quelques problèmes psychologiques. Mais il y a quand même les faits qui sont là, donc à voir, je pense.
Violence conjugale, on s'y attend. Et aussi, s'il y a tentative de meurtre, je pense qu'il pourrait mettre la préméditation, parce que comme ils ont déjà dit, les enfants ont plusieurs fois répété, il voulait tuer maman, il a dit qu'il allait enverrer quelqu'un pour la tuer. Même si il le pensait pas vraiment, c'est que c'était quand même un moment dans sa tête, quoi. C'est aussi quelque chose qui arrivait sur le coup de la colère, et je pense que c'est un peu des deux. Donc je sais pas.
Personnellement, j'ai pas trop d'avis sur l'accusé. Je dirais que je suis un peu neutre. Faudra attendre le troisième jour, les plaidoiries pour voir, je pense.
Jury numéro 1.
Crochet à la dent, seconde 2.
Jury numéro 2. Louessard Maya, seconde 2. Jury numéro 3.
Galan Jules, seconde 2.
Jury numéro 4.
Romer Crête Martin, seconde 2.
Jury numéro 5.
Chemin Colline, seconde 4.
Jury numéro 7.
Mazuret, Maëlys, seconde 4.
Jury numéro 6.
Pontruchet, Eline, seconde 4.
Jury numéro 8.
Adam, Clara, seconde 4.
Jury numéro 9.
Angers, Emma, seconde 4.
Jury numéro 10.
Lenoir, Nani, seconde 4.
Jury numéro 11.
Duterte, Rachel, seconde 4.
Jury numéro 12.
Bonaventure, Emma, seconde 4.
Nous remercions Maître Floch, Maître Cantero et Maître Bougie pour leurs réponses à nos questions, ainsi que nos professeurs, Madame Roland et Monsieur Schindler Bondiguel, tout comme le lycée Chateaubriand qui nous ont accompagnés tout au long de notre aventure Litso. Merci au groupe Stern pour leur musique. Merci à Romain de Silab pour son aide. Et merci à toutes les personnes que nous avons pu interviewer sans les connaître, celles qui nous ont aidés et donné du temps pour nous. Merci à tous. La justice est un principe philosophique, juridique et moral fondamental, en vertu duquel les actions humaines doivent être sanctionnées et récompensées en fonction de leur mérite au regard du droit, de la morale, de la vertu ou autres sources normatives de comportement. L'ambition est toujours l'ennemi de la justice. Proverbe latin, 1757.
Donc juste avant les délibérations, ce fut à l'accusé de parler. Pardon à toute sa famille, à sa femme, à ses enfants, de les avoir déçus et de les avoir trahis.
Moi, ce qui m'a marqué le plus, c'était quand il a parlé, quand il a demandé pardon. Parce que pendant toute. Depuis le matin qu'on y était, il avait rien dit. Et il paraissait neutre, il paraissait froid, etc. Et là, on a vu que bah, finalement, bah, que. Il. Vraiment, genre, il se. Enfin, il voulait demander pardon. Il demandait pardon. Et qui était vraiment honteux d'avoir fait ça.
Ce fut le même passage qui m'a marqué, mais pas de la même façon. Vu tout ce qu'on nous disait de cette personne, quand j'ai entendu parler, j'ai eu comme l'impression qu'il faisait semblant. C'est justement, vu qu'il paraissait neutre, vu tout ce que disaient les avocats, tout ce que disaient les gens bah voilà, qui l'accusaient, il paraissait très neutre. Et donc, comme si ça ne le touchait pas. Et donc, le fait d'avoir dit tout ça, on a l'impression que c'est pas qu'il ne le pensait pas vraiment. C'est l'impression que j'ai.
Après, il y a eu un moment de délibération qui a duré 2 heures environ. Et donc après les délibérations, il y a eu le bilan du président. Et donc il a été voté qu'il y a eu des violences volontaires majoritairement. Et donc il a été jugé coupable de tentative de meurtre par conjoint. Il a donc été condamné à 10 ans de réclusion criminelle avec un suivi psychologique de 5 ans. Et l'interdiction d'approcher le domicile familial et de sa femme.
Il doit payer aussi 10 000 euros pour dommages, coups et blessures à sa femme. Et s'il ne fait pas le traitement qui lui est dû, il encourt 2 ans d'emprisonnement.
Il a fait ce qu'il a fait, c'est quelque chose de grave et qui est puni par la loi. Donc s'il y a des lois pour ça, il y a des règles, il n'avait pas à faire ça. Et apparemment, il était aussi en déficience mentale. Donc, c'est le jugement qu'il y a eu.
Ce dont je me rappelle, c'est qu'il y avait quand même des circonstances aggravantes qui ont été dites plusieurs fois. C'est le fait qu'il n'y a pas eu une seule fois où il y a eu une agression de sa part sur sa femme, c'est qu'il y a eu déjà d'autres faits des années auparavant qui étaient très importants. Sa femme n'avait pas porté plainte, n'empêche qu'on le savait. Et donc ça, c'est quelque chose qui ne l'a sûrement pas aidé lors des délibérés. Personnellement, j'aurais peut-être un peu moins de prison. Parce que les 10 000 euros, je pense, c'est normal. Sa femme a été quand même blessée. Elle doit refaire une partie de sa vie. Donc forcément, c'est quelque chose qu'il se doit de faire. Et il doit aussi forcément avoir un minimum de réclusion. Mais autant, 10 ans, je trouve que ça fait quand même beaucoup.
Moi, je peux pas vraiment me mettre à la place d'un jury, parce que je pense qu'il y en avait qui étaient pour, il y en avait qui étaient contre. Et ça a été un grand débat, vu les 2 heures de délibération. Mais en tout cas, oui, ce que je peux dire, c'est que je pense qu'ils ont fait le bon choix. En tout cas, j'espère.
Jury numéro 1.
Trochet Ladan, seconde 2.
Jury numéro 2. Louessard Maya, seconde 2. Jury numéro 3.
Galant Jules, seconde 2.
Jury numéro 4.
Romère Crête Martin, seconde 2.
Jury numéro 5.
Chemin Colline, seconde 4.
Jury numéro 7.
Mazuret Maëlys, seconde 4.
Jury numéro 6.
Pontruchet Eline, seconde 4.
Jury numéro 8.
Adam Clara, seconde 4.
Jury numéro 9.
Angers Emma, seconde 4.
Jury numéro 10.
Lenoir Nani, seconde 4.
Jury numéro 11.
Duterte Rachel, seconde 4.
Jury numéro 12.
Bonaventure Emma, seconde 4.
Nous remercions Maître Floc, Maître Cantero et Maître Bougie pour leurs réponses à nos questions. Ainsi que nos professeurs, Madame Roland et Monsieur Schindler Bondiguel, tout comme le lycée Chateaubriand qui nous ont accompagnés tout au long de notre aventure Litso. Merci au groupe Stern pour leur musique. Merci à Romain de Silab pour son aide. Et merci à toutes les personnes que nous avons pu interviewer sans les connaître, celles qui nous ont aidés et donné du temps pour nous. Merci à tous.